paix. Il est 12h. Le journal de midi. Mel Emmanuel.
12h à Grand-Lahou dans la région des Grands Ponts et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Le nonce apostolique Mauricio Rueda, doyen du corps diplomatique en Côte d'Ivoire, a attiré l'attention du président Alassane Ouattara sur la nécessité de lutter contre la corruption dans le pays. C'était lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État, hier lundi au palais présidentiel. En réaction au dire du nonce apostolique, le président Alassane Ouattara est revenu sur les avancées économiques de la décennie précédente à mettre aux acquis de l'État. Sur le continent, le ministre de la Défense du Somaliland a démissionné de son poste pour protester contre l'accord signé entre l'Éthiopie et son pays. Également dans l'actualité nationale et africaine, il y a la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous aurez un reportage de Jean-Claude Mabéa sur les commerçants qui se préparent pour l'accroissement de leur chiffre d'affaires à quelques jours du coup d'envoi de la compétition. Et puis ce journal va se refermer avec l'invité de la rédaction, Dr Bogasako Gervais, président de la Fédération internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, se prononce sur le communiqué conjoint produit par les ministères de l'Intérieur et des Finances relatif au rapport de la Cour des comptes. Soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Nous ouvrons ce journal avec la présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État. Lors de son discours, le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, a utilisé une image de rencontre footballistique pour attirer l'attention du chef de l'État sur la lutte contre la corruption. C'était hier lundi au palais de la présidence. Écoutons Monseigneur Mauricio Rueda Beltz.
La stratégie de Dieu adoptée avec le plan national de développement a procuré un bon score grâce à un climat des affaires améliorées et une hausse des investissements. Ce qui conforte la Côte d'Ivoire dans son challenge à l'horizon 2030 à s'hisser au rang de pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure pour vaincre la pauvreté. Toutefois, lorsque la beauté de Dieu est menacée par des actes anti-Dieu, il faut crier à haut en brandissant les cartons rouges. Les cartons rouges de la transparence, c'est contre la corruption pour rendre les acteurs joués de cette sélection diaphane et libre. La mise en place d'une haute autorité en ce sens est de bon augure et nous vous félicitons. Cela évitera que les buts de la croissance puissent être invalidés par les hors-jours de la quête des bénéfices propres que détectera l'avare de l'intérêt commun. Excellence, votre agenda international vous a conduit durant l'année écoulée en divers pays pour des séjours fructueux garantissant à la Côte d'Ivoire une stabilité, car le progrès est synonyme de la paix.
À l'instant, le nonce apostolique, Monseigneur Mauricio Rueda Beltz, doyen du corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Toujours à propos de la présentation de vœux au chef de l'État, réagissant au propos du nonce apostolique, le président de la République a rappelé les performances économiques et sécuritaires de la Côte d'Ivoire au cours de la dernière décennie. Il a également invité les ambassadeurs accrédités à accorder leur soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Le président Alassane Ouattara.
L'actualité politique enregistre également la nomination d'un nouveau Premier ministre, M. Robert Mbembe-Gré, et la formation le 17 octobre 2023 d'un nouveau gouvernement qui a pour mission de poursuivre et de consolider les progrès économiques enregistrés par la Côte d'Ivoire au cours de la décennie écoulée, notamment en matière de paix, de sécurité et de croissance économique. En ce qui concerne le volet sécuritaire, le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières nord du pays, ainsi que la mise en place de projets de développement en faveur des jeunes de cette région, ont contribué à réduire de façon significative les risques d'attaques terroristes. Parallèlement, le gouvernement poursuit avec détermination la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, le trafic de drogue et l'orpaillage illégal. 80% des sites d'orpaillage illégal répertoriés ont été déguerpis. Dans ce cadre, j'encourage vos gouvernements respectifs à continuer d'apporter leur soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, qui a une vocation sous-régionale et qui est appelée à devenir un pôle d'expertise et de compétences régionales dans ce domaine.
Vous venez d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara. Vie des partis politiques, concernant leur financement et justificatif d'utilisation des fonds, l'ONG Civis Côte d'Ivoire s'élève contre la non-mise à disposition des différents rapports d'utilisation de ces fonds, ce qui va à l'encontre de la loi. Au travers de son président, Civis Côte d'Ivoire appelle à une mobilisation. Docteur Christophe Kwame.
Nous avons constaté, de 2020 à aujourd'hui, que l'ensemble des partis politiques de Côte d'Ivoire ont reçu pas moins de 13 milliards de francs CFA. Malheureusement, en face, la loi leur fait obligation de faire un rapport au même titre que tous les ministères et de rendre ce rapport au plus tard le mois de mars de l'année N plus 1. 2020, 2021, 2022, aucun parti politique n'a rendu son rapport et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur, continue de les financer. 2016, 2017, 2018, 2019, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance qui a été mise en place en 2015 a fait un communiqué conjoint avec la Cour des comptes pour demander à ce que les partis et groupements politiques fassent un rapport de l'utilisation de l'argent public et ne se sont pas exécutés. Donc, nous, Civis, nous faisons le constat, nous appelons à une mobilisation publique pour qu'on sache pourquoi les partis ne font pas ce rapport alors que la loi les y oblige.
Propos de Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, recueilli par Gapienan Ouattara. Faisons un tour dans nos régions à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. À Korogo, cette compétition doit générer des retombées économiques, au dire de Fidel Sarasoro, président du Conseil régional du Poro. À cet effet, il est prévu un forum économique le 20 janvier prochain, en vue de susciter des partenariats avec les acteurs économiques locaux. Cette annonce a été faite dimanche dernier, au terme d'une visite des différents sites dédiés à la CAN à Korogo.
Au-delà de l'accueil, nous voulons également que cette CAN soit une opportunité pour que les délégations étrangères puissent faire du tourisme. Sortir un peu de Korogo également, aller dans les autres localités, découvrir les sites touristiques. Mais enfin, nous voulons que cette CAN soit une opportunité de retombée économique pour Korogo et pour le Poro en général. C'est pour cela que nous allons organiser le 20 janvier ici, Korogo, un forum économique avec le CPC, avec la Chambre de commerce et d'industrie et avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Nous allons mettre les hommes d'affaires de l'Afrique du Sud, la Namibie, en contact avec les hommes d'affaires de la région pour qu'on puisse leur présenter les opportunités d'affaires qu'il y a ici. Enfin, nous allons faire en sorte que les artisans, les musiciens, les restaurateurs, les hôtels puissent véritablement bénéficier de cette CAN et que ce soit effectivement une CAN qui a des retombées économiques pour notre économie au niveau local.
Le président du Conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, était au micro de Marcel Bonny. À l'ouest du pays, dans le Tampi, le département de Biankouma ne veut pas rester en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À 4 jours du coup d'envoi, autorités administratives, élus et population s'approprient l'événement à travers la création de villages CAN. C'est à l'initiative de Deli Mamadou, secrétaire départemental sous-préfectoral de la localité. Plus de détails avec Stéphane Adams, notre correspondant dans le Tampi.
La prise de parole du représentant des récipiendaires des villages CAN, Sané Martial, à quelques jours de l'événement, n'est pas fortuite.
Hier, il a honoré tous nos enfants en âme de Noël. Et je dis encore, il nous appelle pour faire nos villages un village CAN. Celui qui nous offre ce grand cadeau est l'honorable Deli Mamadou. Au nom de tous les récipiendaires, merci.
Ici, le donateur, secrétaire départemental du RHDP, bien comme sous-préfectoral, Deli Mamadou, démontre la force cachée de cette action en faveur des populations du département.
Ce que nous avons remis comme kit, c'est pour une projection sur des écrans géants de 3 mètres sur 2 dans les grandes places publiques à Abidjan. C'est comme ça que la CAN va se regarder. Et nous avons voulu que nous nous efforcions d'accompagner nos parents dans cet événement national pour qu'ils vivent cela dans la ferveur de cette organisation. En fin de soirée, il sera organisé de 20h à l'aube sur les l'esplanade de la mairie un concert pour égayer les parents avec 11 artistes de la région.
Le préfet du département de Biankouma à cette cérémonie, Soro Fatogoma, dit soutenir la cause.
Je suis agréablement surpris de cette grande mobilisation de nos parents. Il était donc important pour nous non seulement de venir ici, mais de vous appuyer surtout. Parce que l'objet, c'est de mobiliser et traduire dans les faits la volonté affichée du président de la République de Côte d'Ivoire, du Premier ministre, de faire de cette canne une réussite chez nous.
Un repas d'ensemble a également meublé cette journée festive. Stéphane Adams, Biankouma, Radio de la Paix.
Actualité sur le continent, le ministre de la Défense du Somaliland a démissionné pour protester contre la signature par son gouvernement d'un accord permettant à l'Éthiopie d'accéder au littoral du Somaliland. Abdikani Mohamed Atei a affirmé lors d'une réunion antérieure avec le président du Somaliland que le stationnement de troupes éthiopiennes dans le pays était fondamentalement inapproprié. L'Éthiopie reste notre ennemi numéro un, a-t-il également déclaré lors d'une interview accordée dimanche à la télévision locale. La Somalie a protesté contre cet accord qu'elle considère comme une menace pour la souveraineté du Somaliland qui s'est séparé de la Somalie il y a plusieurs décennies mais qui n'est pas reconnu par la communauté internationale comme un État indépendant. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui va s'ouvrir dans quelques jours. Cap sur la poule C. Lors des deuxièmes journées des matchs de poule, la Guinée sera aux prises avec la Gambie. L'analyse des forces en place avec César Yao.
La Gambie participe à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations après celle de 2021 qui s'est jouée au Cameroun en 2022, qualifiée lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Après un match fou face au Congo, les Scorpions viendront en Côte d'Ivoire avec de solides arguments. Les partenaires de Youssoufa Ndié avaient réussi à atteindre les quarts de finale pour leur toute première participation à la CAN après avoir éliminé la Guinée. La sélection dirigée par l'entraîneur belge Tom Saint-Fit vient en Côte d'Ivoire avec comme principale ambition de dépasser les quarts de finale qu'ils avaient atteints en 2022 au Cameroun. Pour cela, la Gambie pourra compter sur des joueurs de qualité comme la pépite Adama Boujang qui a fait folle sensation lors du mondial des moins de 20 ans sera un atout majeur pour les Scorpions. Mais l'homme à surveiller dans cette équipe reste la star Moussa Barrow qui évolue à Al Tawon FC en Arabie Saoudite. La Guinée participera à sa 14e CAN en Côte d'Ivoire. La sélection dirigée par Kaba Diawara aura à cœur de réaliser sa plus belle CAN en allant le plus loin possible dans la compétition. Le Sili National qui a atteint la 8e de finale lors de la dernière édition se dresse en tant que challenger sérieux avec des joueurs comme Mohamed Bayou, Amadou Diawara parti à Anderlecht ou encore Cherou Girassi de Stuttgart sans oublier Naby Keita du Werder de Brême trop souvent blessé et bien la Guinée tentera cette édition de bousculer la hiérarchie. La Guinée compte 14 participations, meilleure performance finaliste en 1976. La Gambie ne compte qu'une seule participation avec pour meilleure performance quart de finaliste en 2021 au Cameroun.
Une analyse des forces du groupe C à l'instant faite par César Yao. Et cette messe du football africain est un moment propice pour les opérateurs économiques nationaux de réaliser de bons chiffres d'affaires. Des vendeurs d'équipements sportifs aux couleurs de la CAN aux hôteliers en passant par les transporteurs, tous ont peaufiné leur stratégie marketing pour tirer profit de cette fête footballistique, nous dit Jean-Claude Mabéa dans ce reportage.
La Côte d'Ivoire va abriter du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Cette compétition est une opportunité pour les opérateurs économiques nationaux de générer du profit. C'est le cas dans une boutique de sport que nous avons visitée à Marcoury. Sur les étagères sont exposés les maillots des 24 équipes nationales et des gadgets à leurs effigies. Colombe Conan, responsable sport de ce magasin.
Nous avons celui-là qui est à 25 000. Celui-là, c'est le même maillot, mais celui-là, c'est la version VIP. Lui, il est à 49 900. L'orange et le vert sont à 49 900. Et le maillot du supporter, il est à 39 900. Dans mes statistiques, c'est vendre au moins 6 000 à 7 000 maillots. Quoi.
Ces prix semblent ne pas ébranler Lionel Poda, l'un des clients trouvés sur place.
Ce n'est pas le montant qui m'importe, c'est la qualité du maillot. Donc, puisque la qualité est, on comprend aussi que le prix aussi, il est aussi.
Cette canne est une unique occasion rêvée pour ces opérateurs économiques d'offrir leurs services aux supporters qui viendront assister à cette messe du football africain. David Diakité, responsable d'une agence de voyage.
Pour cette offre qu'on a mise sur place, ce sont ensemble différents packages. On a des offres touristiques d'une journée, Abidjan, Korogo, San Pedro, Boaké, où ça inclut le transport, les sites, tout le déjeuner, plus les tickets de match, et puis ambiance by night. On a des offres week-end, où ça inclut deux nuitées dans un hôtel 4 étoiles, transfert aller-retour, transport durant les activités, Boaké, City Tour, déjeuner, ticket de match.
Il en est de même pour les complexes hôteliers qui ont fait peau neuve et renforcé leur capacité d'accueil pour satisfaire la clientèle. Jean-Luc Baguidi, le directeur général d'un grand hôtel au plateau.
C'est vrai que c'est très important la rentabilité, mais il faut s'assurer que les clients soient satisfaits. Il s'agit de montrer une hôtellerie africaine, ouverte sur le monde, qui fonctionne avec des standards internationaux.
Plus d'une centaine de cars ont été commandés par une compagnie de transport pour assurer le transport des 24 équipes nationales. Pape Sec est le manager de la stratégie marketing et communication de la dite compagnie de transport.
Les commandes ont été faites et les cars arrivent déjà à l'effigie des équipes nationales.
Signalons que de nombreuses opportunités d'affaires sont développées en ce moment même autour de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.
Nous voici arrivés au dernier virage de ce journal. L'invité de la rédaction est le président de la Fondation internationale pour l'observation de la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP. Il se prononce sur le communiqué conjoint produit par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et celui des Finances et du Budget relatif au rapport de la Cour des comptes. Docteur Bogasako Gervais répond aux questions de Francis Cassi.
Docteur Gervais Bogasako, bonjour.
Oui, bonjour, cher ami de la Radio de la Paix.
Pourquoi avez-vous fait une déclaration sur le récent rapport de la Cour des comptes disant que pour l'exercice 2022, des ressources publiques liées aux frais des passeports et cartes nationales d'identité n'auraient pas été reversées dans les caisses de l'État? Pourquoi une déclaration?
Oui, la déclaration s'imposait à une structure comme la nôtre, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, pour la simple bonne raison que les droits de l'homme riment avec l'état de droit, lequel état de droit implique nécessairement la bonne gouvernance. Or, ce qui a été révélé par le rapport de la Cour des comptes, c'est que simplement, il y a une certaine malgouvernance, des traces invisibles, j'allais dire non retrouvables, des sous pour les passeports, les cartes nationales d'identité. Donc, pour une structure des droits de l'homme qui surveille à la fois la démocratie, l'état de droit, le respect de la bonne gouvernance, il était nécessaire de nous appuyer sur ce rapport-là, d'abord le lire, nous l'approprier et demander des comptes à l'État, parce que c'est lui, l'État, qui est destinataire de ce rapport, notamment le président de la République.
Alors, mais les ministères concernés, depuis le 4 janvier, ont tenu à faire un communiqué pour apporter des précisions. Est-ce que vous avez une idée de ce communiqué?
Oui, on a vu le communiqué des membres du gouvernement, mais qui vient après coup. Parce que vous savez, quand une institution comme la Cour des comptes fait un rapport, elle contacte nécessairement les services de l'État. Et parfois même, les réponses de l'État sont contenues dans le rapport. Donc si le gouvernement fait maintenant des mises au point ou bien donne des précisions après coup, cela veut dire qu'au moment de l'élaboration du rapport, il y a eu quelque part un dysfonctionnement. L'État n'a pas donné certainement des réponses fiables. Et puis le tout, c'est quand même grossier que de ne pas trouver des traces de telles sommes d'argent, d'une telle rubrique, parce que quand même la carte nationale d'identité, c'est tous les Ivoiriens qui sont concernés, le passeport, un certain nombre de personnes. Donc les informations que nous donne le gouvernement, pour nous, ne satisfont pas les populations, parce que dans tous les cas, on ne nous dit pas où se trouve la totalité de l'argent. Est-ce que ce sont les concessionnaires, notamment Sénédaï, pour ce qui est des passeports, et Onissi pour ce qui est des cadres nationaux défaillants, ou alors c'est au niveau du gouvernement même que le dysfonctionnement a existé. En tout état de cause, nous constatons là une mal gouvernance.
Mais je vais vous lire un extrait de ce rapport. Alors, il est dit, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention passeport, un compte dédié a été ouvert dans une banque. Ce compte est régulièrement alimenté pour le recouvrement de la part fiscale revenant à l'État. Voilà comment le communiqué des ministères là se défend.
Oui, maintenant que le ministère se défend comme cela, bon, qui cherchons-nous à convaincre, les Ivoiriens ou la Cour des comptes? Si la Cour des comptes avait une telle information, pourquoi n'a-t-elle pas figuré dans le rapport? Parce que finalement, ce ne sont pas les Ivoiriens qui accusent l'État, c'est la Cour des comptes qui nous informe de ce que elle, ayant fait l'audit, ayant fait le contrôle, il manque. Donc ce qui vient après coup, cher ami, notons que c'est une malgouvernance, c'est une défaillance. Quand on nous dit qu'au niveau du passeport, le concessionnaire a une part, l'État de Côte d'Ivoire a une part, et quand on regarde dans le rapport, les parts sont égales, 50%, 50%. Mais comment voulez-vous que l'État puisse partager des parts à part égale avec un concessionnaire?
Alors, docteur Bougal, pourquoi êtes-vous si péremptoire à dire que c'est une malgouvernance, une mauvaise gouvernance?
Mais dès l'instant où une institution de la République le dit, qu'elle n'a pas vu trace dans les livres comptables de l'État, vous voulez qu'on note ça comment? Et puis après, vous allez venir vous justifier. Mais regardez dans l'opinion nationale, regardez, écoutez les Ivoiriens.
Donc vous voulez dire qu'après le communiqué des différents ministères, la Cour des comptes devait aussi réagir pour clarifier tout?
Oui, peut-être par parallélisme des formes, puisque c'est la Cour des comptes qui a révélé cette défaillance, peut-être faudrait-il que ce soit la Cour des comptes qui vienne nous certifier que la défaillance qui avait été notée a été réparée. Parce que c'est comme si quelque part, on nous a prélevé de l'argent et on ne sait pas ce qu'on a fait de notre argent. On est en droit de le penser.
Alors, des voix pourraient simplement dire, mais il y a eu tant d'affaires depuis que la Côte d'Ivoire existe comme nation indépendante, mais pourquoi celle-ci fait tant de bruit?
Parce que lorsqu'on écoute nos gouvernants, c'est que tout va bien dans la République. Quand on écoute le président de la République dans sa dernière adresse à l'occasion des vœux du Nouvel An, tout va bien dans la République. Mais quand une institution de la même sort un tel rapport, ça a beaucoup de prix. Hier, on a parlé d'un dossier concernant le fer, le fonds d'entretien routier. Plein de milliards volatilisés, mais rien n'a été. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus sérieux parce que c'est une institution de la République qui a sorti ce rapport-là.
Quelque part, vous avez dit que cette affaire devait suivre le cours, sinon le processus qu'a eu celle du stade de Bimpé, Alassane Ouattara.
Oui, parce qu'au niveau du scandale du stade de Bimpé, parce que c'était un match amical international. Donc tous les regards étaient sur nous et du coup, le chef de l'État a eu une bonne réaction. Et dans le fond, on a vu qu'il y avait des détournements et tout cela. Donc, pour nous, le chef d'État devait faire pareil. Aller au fond, savoir qui a fait quoi, et puis prendre les mesures qui s'imposent. Sauf d'autant plus que aujourd'hui, l'État demande encore aux Ivoiriens de faire des sacrifices. L'électricité va augmenter. Si l'électricité augmente, ça veut dire que quelque part, des sacrifices doivent être encore faits par le peuple. Lorsque le peuple fait des sacrifices, il aimerait voir que les sacrifices qui sont faits servent à quelque chose. Mais c'est vrai que je parle de mal gouvernance, mais quelque part aussi, la réaction de la Cour des comptes m'oblige à reconnaître que c'est une sorte de bonne gouvernance aussi, en ce sens que c'est une institution de la République qui a fait son travail.
Docteur Gervais Bogasako, je vous remercie.
C'est moi.
C'était l'invité de la rédaction, Dr Bogasako Gervais, président de la FIDOP, en entretien avec Francis Cassi. Après eux, nous passons maintenant au rappel des titres de ce journal. Le nonce apostolique Mauricio Rueda, doyen du corps diplomatique en Côte d'Ivoire, a attiré l'attention du président Alassane Ouattara sur la nécessité de lutter contre la corruption dans le pays. C'était lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État hier lundi au palais présidentiel. Et puis sur le continent, le ministre de la Défense du Somaliland a démissionné de son poste pour protester contre l'accord signé entre l'Éthiopie et son pays. Le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal. Je vous dis bon appétit et bonne écoute de la revue de presse avec Jean-Mélène Bitté.
Bonjour à tous. La présentation du vœu de Nouvel An au chef de l'État, le rapport de la Cour des comptes, le recrutement au PDCI et la CAN 2023 font l'actualité en Côte d'Ivoire. La présentation du vœu au président de la République à ce propos, dans Fraternité Matin, le chef de l'État, lors de cette cérémonie, a appelé les bailleurs de fonds à investir en Côte d'Ivoire, tout ceci afin de relever des défis du développement. Il le dit en ces termes, j'encourage vos gouvernements respectifs à continuer d'apporter leur soutien à l'Académie de la lutte contre